France Culture.
Effet chat, une série documentaire de Franck Bessière, réalisée par Gilles Blanchard.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture.
France Culture.
Des histoires merveilleuses.
D'hier et d'aujourd'hui.
Pour grands et petits.
Une collection France Culture.
Chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille.
Blanche-Neige.
En voiture ou au coin du feu.
David Copperfield.
Accompagner une sieste dans le hamac.
La Reine des Neiges.
Ou à l'heure du coucher.
Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits.
À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture dans 20 minutes, le débat de questions du soir. Pourquoi tant de critiques autour de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises? En deuxième partie d'émission, on s'interroge sur ce que l'écriture des polars doit aux femmes à l'occasion des 80 ans de la série noire. Mais pour l'heure... Il est 18h sur France Culture. Vous retrouvez le journal de la rédaction présenté ce soir par Faouzi Trita. Bonsoir Faouzi.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Dans une dizaine de départements, le plan Grand Froid a été déclenché pour mettre à l'abri les personnes vulnérables, hébergement d'urgence, accueil de jour, chambre d'hôtel. L'État est confronté à une forte demande alors que les capacités sont limitées. Noël est une période très difficile pour les plus précaires. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, 11 millions selon l'INSEE. Ils font énormément de sacrifices pour offrir un semblant de fête dans leur foyer. Une catégorie de la population traverse encore plus difficilement la période. Ce sont les mères célibataires, témoignage à suivre. Malgré des relations très difficiles entre la France et la Russie, le contact a été établi pour évoquer la situation et une possible libération du chercheur français Laurent Vinatier. Il est emprisonné depuis 2024 en Russie. Le pays annonce avoir fait une proposition à la France. La famille de Laurent Vinatier reste prudente face à l'imprévisibilité des dirigeants russes. Au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroule dans des stades pleins. Nous verrons en fait que lorsqu'il y a moins d'influence sur certains matchs, le comité d'organisation ouvre grand les portes pour donner à voir de belles images à travers le monde. Noël à la rue avec ses températures proches de zéro. Une bonne dizaine de préfectures ont activé le plan Grand Froid pour protéger les personnes vulnérables qui dorment dehors. Mesures les plus systématiques, l'intensification des maraudes, l'ouverture de places d'hébergement d'urgence, l'ouverture d'accueil de jour et même des chambres d'hôtel pour les plus fragiles, les familles ou les familles monoparentales. Bonjour Héloïse Weiss.
Bonjour.
L'État doit faire face à un afflux de demandes sans pour autant que le nombre de lits ne suive.
Car tous les soirs et toute l'année, ce sont 7000 personnes qui sollicitent un hébergement d'urgence sans jamais obtenir de réponse positive. Et le chiffre est sans doute sous-estimé car il ne prend en compte que ceux qui appellent le 115. Pascal Brice est président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Selon lui, le plan Grand Froid démontre ainsi le déficit structurel de places en hébergement d'urgence.
C'est ce qu'on appelle la gestion au thermomètre, qui est toujours très problématique, parce que la réalité de personnes à la rue, c'est dans la durée, c'est pas seulement quand il fait très très froid, c'est tout le temps. Et nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de places d'hébergement d'urgence, 200 000, mais c'est en réduction, alors même qu'il y a de plus en plus de gens à la rue.
Depuis 2021, la France a perdu 20 000 places. Un récent rapport des inspections générales pointait d'ailleurs un manque de crédits alloués, auquel s'ajoute désormais la fragilisation économique des associations. Principal gestionnaire de ces structures, poursuit Pascal Brice.
Les associations qui gèrent ces hébergements sont en grande fragilité budgétaire. Une enquête récente montre que si rien n'est fait dans les prochains mois, une association sur trois aura disparu. Ça veut dire que dans toutes les villes françaises, petites, grandes et moyennes, dans quelques mois, vous n'aurez même plus une association sur trois pour héberger les gens qui sont à la rue. Donc c'est vraiment une situation extrêmement préoccupante.
Début décembre, le Sénat avait voté une enveloppe de 85 millions d'euros supplémentaires pour financer les hébergements d'urgence dans le cadre du projet de loi de finances 2026. C'était avant que la commission mixte paritaire échoue à adopter un texte.
Les explications signées Héloïse Weiss. Et par ailleurs, un sans-abri est décédé à Reims la nuit dernière, probablement à cause du froid. Il avait passé la nuit dehors en centre-ville. C'est l'association Les Maraudes Citoyennes qui l'annonce cet après-midi. Intéressons-nous à présent au repas de Noël. Il y en a en général plusieurs. Ça a commencé pour beaucoup de Français hier soir avec le réveillon et ils vont probablement s'étaler jusqu'à dimanche, le temps de recevoir ou de rendre visite à la famille et aux amis. Des tables de Noël qui deviennent de plus en plus politiques au sens noble du terme. Les plats servis reflètent à la fois les habitudes des uns, les convictions des autres. Des repas qui sont aussi révélateurs de la fracture entre les générations. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Plus que jamais, la maxime « on est ce qu'on mange » se vérifie à Noël.
Oui, même si, rappelons-le d'emblée, l'idée même d'un repas de Noël est vraiment loin de concerner tout le monde, puisque un Français sur 10 est en situation de précarité alimentaire. Reste que s'il est un moment où l'attention est particulièrement portée au menu, c'est pour les repas de réveillon. Et pour certains, quelques mets semblent être devenus comme des traditions. Volailles, fruits de mer, saumon fumé, foie gras, bûches de Noël. Mais pour combien de temps encore? Les habitudes alimentaires et la valeur attachée aux aliments évoluent. Elle crée de nouvelles tensions dans les familles, notamment entre générations, et aussi de nouveaux marchés. Par exemple, pour répondre à la hausse du nombre de personnes végétariennes, on a vu apparaître dans les rayons ces plats dans leur version végane, comme le faux gras.
Catherine, ce sont des modes, des niches ou une tendance de fond?
Bien, ce qui est considéré comme bien manger, ça raconte nos priorités individuelles et collectives. Les aliments choisis peuvent être des signes de distinction, illustrer aussi des choix politiques. Et désormais, il y a une plus grande attention portée aux impacts de l'alimentation sur la santé et l'environnement. Dans leur immense majorité, les Français y sont sensibles et ils le disent. Mais ils sont très peu à réussir à le traduire en pratique, conséquence de l'inflation. Le plus souvent, l'alimentation souhaitée par les personnes ne correspond plus à celle qu'elles peuvent s'offrir. Dans une récente étude sur les effets de l'inflation, l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, décrit une dualisation de marché de l'alimentation, avec d'un côté les personnes aisées qui ont la possibilité de s'approvisionner en produits bio, locaux, sains, à forte valeur ajoutée, et de l'autre, une grande partie de la population contrainte de se rabattre sur une offre de masse avec des produits moins qualitatifs et peu chers. Une menace pour le pacte alimentaire, c'est-à-dire l'idée que chacun ait accès à une alimentation qu'il choisit, Noël ou pas.
Les explications signées Catherine Pétillon. Autour du repas de Noël, toujours, il y a aussi cette autre réalité. Celles et ceux qui ne peuvent pas remplir la table et la hotte du Père Noël pour les enfants. 10 millions de Français vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Un chiffre jamais observé depuis le début du comptage effectué il y a presque 30 ans par l'INSEE. Et parmi ces 10 millions de pauvres, il y a presque un tiers de familles monoparentales. L'Observatoire d'Emmaüs a réalisé une enquête en interrogeant 13 mères célibataires, des mères célibataires qui ont toutes les peines du monde à établir un budget pour Noël. Mathilde Leroy.
Marlène est auxiliaire de vie à temps partiel. Une fois son loyer et ses charges payées, il lui reste environ 200 euros pour vivre. Alors, pour faire quelques cadeaux de Noël à ses deux enfants, elle échelonne ses paiements.
Heureusement, c'est à moins 50% sur des jeux créatifs. Donc, en novembre, j'ai tout de suite pris. Au lieu de 64, ça m'est revenu donc à 36 euros les deux jeux. Et décembre, j'ai fait pour ma fille. Donc, je trouve des astuces, en fait. Et j'arrive à plus ou moins vivre, on va dire.
Et il ne reste plus rien pour le repas de Noël.
Ma famille, ils savent ma situation. Du coup, ils essayent de faire selon mes moyens, quoi. Mais heureusement qu'il m'a dit de ne pas prendre les clémentines et les papillotes parce que je ne pouvais même pas. Là, je suis à moins de 118. Je vivrai avec ça jusqu'au 26, on va dire.
Des privations dues à la hausse des dépenses contraintes de ces ménages, loyer, électricité ou encore mutuelle. Tarek Daher de l'association Emmaüs.
Dans les ménages qu'on accompagne, il arrive qu'il y en ait qui aient plus de la moitié de leur budget qui est contraint chaque mois par les dépenses obligatoires. C'est parfois des arbitrages bouleversants, c'est-à-dire qu'une mère de famille qui a plusieurs enfants, bah c'est les plus petits qui auront des cadeaux et les plus grands, bah ils seront privés pour que les plus petits aient des cadeaux.
Les fêtes supposent ainsi pour ces mères célibataires énormément d'anticipation et d'efforts, conclut l'étude, pour préserver un moment de joie pour les enfants.
Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. Il était l'un des derniers maquisards encore en vie, l'un des derniers témoins de la résistance. Daniel Huillier, combattant du maquis du Vercors, s'est éteint à l'âge de 97 ans. L'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors a fait part de son infinie tristesse. L'entreprise familiale automobile Huillier a parlé d'un résistant de la première heure et un chef d'entreprise hors pair. Et d'ailleurs, tout au long de sa vie, ces deux missions, en quelque sorte, vont s'entremêler et devenir les piliers de son existence. Mathilde Cariou.
Daniel Huillier a tout juste 16 ans quand il rejoint le maquis du Vercors aux côtés de son père et de son oncle. Et comme il vient d'une famille de transporteurs, eh bien sa mission dans le maquis, c'est de faire des livraisons d'équipements, d'armes, de munitions. En juillet 44, alors que la Gestapo menace les résistants du plateau du Vercors, Daniel Huillier est rapatrié à Grenoble chez ses grands-parents. Quelques jours plus tard, il échappe au massacre du Courbéria où 20 maquisards sont fusillés par les Allemands. Ça, c'est pour l'histoire du résistant, mais Daniel Huillier avait plusieurs casquettes. Il était notamment joueur international de hockey, licencié des Ours de Villard-de-Lans depuis 1938, sélectionné même en équipe de France en 1953. Il a participé au championnat du monde en Suisse et puis chef d'entreprise dans l'automobile. Avec son frère Victor, il a repris le groupe familial Huillier basé à Saint-Égrève. Il en était d'ailleurs toujours le président d'honneur.
Un retour à la normale du côté de la Poste. Toute l'activité a repris, indique la direction de la communication du groupe. Depuis lundi, le site et l'application La Banque Postale étaient fortement perturbés à la suite d'une cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes. Le suivi des colis par la Poste restait perturbé. Tout est à présent rentré dans l'ordre. Noël sur une botte de paille avec un feu de palette sur le bitume. Des agriculteurs bloquent toujours plusieurs routes et autoroutes du sud-ouest pour dénoncer la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse. Par exemple, l'autoroute A63 est toujours bloquée au sud de Bordeaux, à hauteur de Sestas. Dans le Gers, les entrées de la Nationale 124 très fréquentées sont entravées par des barrages. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'A64 reste bloquée à Urte, au Pays Basque et également à Pau. Pau, où la coordination rurale locale prévoit une parade de tracteurs ce soir. Le chercheur français Laurent Vinatier est au centre de tractation entre la France et la Russie pour sa libération. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, évoque des contacts appropriés entre la Russie et les Français pour sa libération. Une proposition a été présentée à la France à ce propos. La balle est désormais dans le camp de la France. Voilà ce qu'il a ajouté. Laurent Vinatier a été arrêté en juin 2024 et condamné à 3 ans de prison en octobre de la même année. De lourdes charges pèsent sur lui alors qu'il ne faisait que son travail. Le récit de Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture à Moscou.
Laurent Vinatier est un chercheur spécialiste de la Russie. Il y a consacré toute sa carrière et il travaillait à Moscou pour une ONG suisse qui s'appelle le Centre pour le dialogue humanitaire, qui est une organisation qui fait ce que l'on appelle de la diplomatie parallèle. C'est-à-dire que quand les parties ne se parlent plus directement dans les conflits lourds, comme c'est le cas actuellement entre la Russie et l'Ukraine, elles tentent de maintenir des liens entre les deux camps, pas forcément de premier plan, mais entre des acteurs qui peuvent à un moment servir d'intermédiaire. On sait par exemple que son ONG avait œuvré sur l'accord qui avait permis de reprendre l'exportation des céréales en mer Noire malgré la guerre. La mission de Laurent Vinatier a été parfaitement connue des autorités russes jusqu'en juin 2024, au moment donc où il a été arrêté au prétexte qu'il ne se serait pas déclaré comme agent de l'étranger. Accusation assez curieuse parce qu'aucun non-russe n'avait eu à le faire jusque-là. Le Français a dû plaider coupable pour obtenir une peine plus légère, 3 ans de prison tout de même. Mais surtout, il est maintenant accusé d'espionnage, ce que tous ses proches, tous ceux qu'il connaissent contestent. Mais il encourt une peine beaucoup plus lourde. Il est actuellement incarcéré à la prison de Lefortovo, connue pour être la prison du FSB, les services de sécurité russes, dans la banlieue de Moscou. Il va bien physiquement, d'après les diplomates qui ont pu le voir lors des quelques visites que leur ont accordées les autorités russes.
À ce stade, et au vu des discussions entre la France et la Russie, peut-on espérer raisonnablement une libération de Laurent Vinatier des geôles russes à court ou moyen terme? Frédéric Bello, l'avocat de Laurent Vinatier, reste prudent, même s'il salue les avancées.
Pour nous, c'est très important, c'est un espoir qui naît pour ses avocats et les parents. Nous ne connaissons pas le contenu de la proposition, nous ne savons pas si proposition véritable il y a eu. Pour l'instant, nous n'avons que le côté russe qui s'est exprimé. Le Quai d'Orsay, la diplomatie française ou l'Élysée, pour l'instant, n'ont pas donné de réponse ni officielle ni aux parents. Madame Vinatier et monsieur appelaient de leur vœu un échange rapide entre eux et le Quai d'Orsay. C'est un point extrêmement important dans le cadre des discussions qui vont s'engager entre les présidents français et russes qui ne se sont pas parlé depuis le 1er juillet dernier, à notre connaissance. Et nous pensons que le fait d'avoir ainsi pu mettre en lumière le cas de M. Vinatier, eh bien, ne peut lui être que bénéfique, parce que dans ce genre d'affaires, il ne faut surtout pas être oublié.
En Russie toujours, il y en a un qui bénéficie d'un tout autre traitement de faveur, c'est l'ex-dictateur syrien Bachar el-Assad, en exil dans la banlieue de Moscou. Il a trouvé refuge dans le pays après la chute de son régime le 8 décembre 2024, il y a un peu plus d'un an, suite à une offensive des forces rebelles. Bonsoir Christian Cheneau.
Bonsoir.
Les journalistes du New York Times viennent de publier une enquête sur l'exil doré de Bachar el-Assad et de son clan.
Oui, les journalistes du quotidien américain lèvent une partie du voile sur son train de vie fastueux. Juste après sa fuite, l'ex-dictateur syrien a d'abord vécu dans un palace de Moscou avant d'emménager dans un duplex d'un gratte-ciel. Aujourd'hui, Bachar el-Assad vit dans une villa d'un complexe résidentiel de luxe à l'ouest de la capitale russe et qui dispose d'un centre commercial. Ses faits et gestes sont étroitement surveillés par les services de renseignement de Vladimir Poutine. Maher el-Assad, son frère et ex-commandant de la redoutée 4e division, vivrait lui dans une tour du centre d'affaires de Moscou, la Capital Towers, selon le New York Times. Pour Bachar el-Assad, la vie semble continuer presque comme avant, comme si rien ne s'était passé, explique un de ses proches aux journalistes du New York Times. L'ex-dictateur syrien qui dispose d'un trésor de guerre organise des fêtes somptueuses, notamment à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Zeyna, âgée de 22 ans, qui a décroché en juin dernier son diplôme à l'Institut des Relations Internationales de Moscou. On peut l'apercevoir dans les restaurants chics de la ville, fréquentés par l'élite politico-financière du pouvoir russe, en particulier le 60, où il est interdit de le prendre en photo. Ainsi, Bachar el-Assad peut-il vivre son exil doré à l'abri des regards, en toute impunité?
Christian Cheneau de la rédaction internationale de Radio France. C'est l'une des prises de parole les plus suivies au monde le jour de Noël, la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi du pape. Léon XIV a dirigé la messe à la basilique Saint-Pierre au Vatican et ensuite il a enchaîné avec son homélie du jour de Noël, le pape qui a évoqué les conflits devant une foule moins nombreuse que d'habitude à cause de la pluie, mais toujours aussi fervente. Le pape Léon XIV, qui pour son premier Noël sur le trône de Saint-Pierre, a accordé une large place aux conflits en cours. Bruno Duvier, le correspondant en Italie de France Culture, était dans la foule.
Joyeux Noël! Feliz Navidad!
Un joyeux Noël dans une dizaine de langues, un tour en papa mobile. Ce premier 25 décembre est aussi l'occasion de rencontrer les fidèles. Comparaison avec François, Elena, Romaine.
Je le trouve plus austère, mais plus authentique. Il revient, et c'est bien, vers plus de spiritualité.
Comparaison avec Trump, Eric, de Floride.
Le pape est plus important que le président. Il représente le monde entier. Le pape a la paix. Trump n'a que des bombes.
Dans le message à la ville et au monde, Léon XIV s'adresse indirectement aux dirigeants américains et européens en priant pour les plus fragiles.
À ceux qui fuient leur terre pour chercher un avenir ailleurs, comme les nombreux réfugiés et migrants qui traversent la Méditerranée ou parcourent le continent américain.
Il appelle Ukraine et Russie à trouver le courage de dialoguer. Ces appels à la paix séduisent beaucoup de fidèles et les laissent dubitatifs. Elsa vient de Lyon.
On attend de voir si ça a marché, parce que pour l'instant, par rapport au conflit dans le monde, c'est pas forcément amélioré grand-chose, mais j'ai beaucoup d'espoir.
Un peu plus tôt ce matin, le pape a eu une pensée pour ces jeunes envoyés à la guerre, à la mort.
Au Maroc, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Royaume a fait de cette compétition un outil de diplomatie et une vitrine de son développement à grande vitesse. Alors par question de voir sur les télés du monde entier des images de stades vides, le comité d'organisation, en accord avec la Confédération africaine de football, a donc décidé régulièrement d'ouvrir grand les portes des stades quand l'affluence n'est pas au rendez-vous. En 20 minutes, le stade se remplit. Clara Lecoq-Réal, c'est très impressionnant. Hop,
le contraste est saisissant. À peine quelques milliers de spectateurs en début de rencontre et près de 30 000 dans les tribunes au coup de sifflet final. Cela s'est vu ces derniers jours pour des matchs à Agadir ou à Rabat. Et ce sont en fait les stadiers qui ont ouvert les portes, faisant entrer de chanceux passants. Car la pluie incessante en ce moment rebute sûrement quelques supporters à venir dans les stades. Mais il y a eu aussi et peut-être surtout un couac dans la billetterie. Certaines rencontres sont censées se jouer à guichets fermés, mais les billets ont en fait été achetés en gros, en lot, et sont revendus beaucoup trop cher illégalement. Il y a eu avant-hier 8 interpellations à ce propos. En attendant, ces portes ouvertes pour remplir les stades font déjà le buzz dans le pays, sur les réseaux sociaux. Elles sont saluées par les supporters. C'est, disent-ils, la compétition du peuple. Ce qui plaît au Maroc, le Maroc qui veut réussir sa CAN à domicile avant, et c'est un enjeu de taille, avant d'accueillir la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal.
Aux États-Unis, un caprice de Donald Trump a eu pour conséquence l'annulation d'un concert de Noël emblématique de la capitale Washington. Le président des États-Unis a décidé il y a presque une semaine maintenant d'accoler son nom à la Kennedy Center, la salle de concert mythique de Washington. La désormais Trump Kennedy Center ne plaît pas à ses opposants. Le traditionnel concert de jazz de Noël a été annulé hier soir. Décision de l'animateur vedette de la soirée, Myriam Rochemassarin, sur place. Tout le monde était d'accord avec cette décision.
C'est la première fois en 20 ans que le traditionnel Jazz Jam de Noël est annulé. Un concert gratuit organisé chaque année par le musicien Chuck Red. Impossible pour lui de jouer dans une salle portant le nom de Donald Trump. Un changement de nom validé par le conseil d'administration du Kennedy Center, lui-même présidé par Donald Trump. Une décision qui indigne la famille de l'ancien président démocrate John Kennedy, assassiné dans les années 60. Une loi fédérale protège pourtant sa mémoire. Aucun mémorial supplémentaire ne doit être installé dans le Kennedy Center. Et c'est sur ce texte que s'appuie l'élu démocrate Joyce Beattie qui conteste la décision. Elle vient de porter plainte. Pour elle, il est inadmissible que Donald Trump contourne le Congrès pour satisfaire son ego. Depuis le début de l'année, le président laisse son empreinte partout dans la capitale américaine. Institut de la paix, renommé Institut Donald Trump, construction d'une salle de bal à la Maison Blanche. Prochain chantier, un grand arc de triomphe sur les rives de Washington. Inauguration prévue le 4 juillet prochain pour le 250e anniversaire des États-Unis.
La météo, plusieurs départements en vigilance. Les Pyrénées-Orientales ont été placées à la fois en vigilance orange, à la fois pour un risque de crue et de pluie-inondation. La Haute-Corse est en vigilance orange-pluie-inondation. L'Aude est en vigilance orange pour un risque de crue. Demain, le ciel sera dégagé sur la moitié nord du pays, avec tout de même quelques nuages sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin.